Soyez les bienvenus à l'écoute des messages Vie d'Alliance de l'évêque Alexandre Amazou. Si vous êtes béni, contactez-nous au www.abmci.net ou au 2241 75 53. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Verset 8 à 20. Écoutez bien, parce que ce que je vais vous dire est très important pour les batailles de 2011. C'est-à-dire, ce message est prophétique et ça vous aider dans des batailles importantes en 2011. Donc, il faut lire, s'il te plaît.
Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Josué avait donné ce ordre au peuple. Vous n'écrirez point. Vous ne ferez point étendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Il fit une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par éternité. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la ville à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. » Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets des reins et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes. Enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes.
Amen. Gloire à Dieu, merci. Donc, vous voyez, dimanche dernier, nous avons vu que Dieu donc avait instruit les enfants d'Israël de posséder Canaan. Mais n'oubliez pas que Canaan, le Seigneur avait parlé à Abraham en son temps. Et Dieu avait dit à Abraham que le lieu que ton pied foulera, je te le donne à toi et à ta descendance. Donc Dieu avait fait une promesse à Abraham, et plus tard, des années après, Abraham est bien sûr mort. Donc, il a parlé à Moïse pour dire, sors mon peuple d'Égypte et conduis mon peuple dans la terre promise. Une terre que j'ai promis à leur père. Mais j'ai dit dimanche dernier que, vous voyez, souvent Dieu te fait une promesse ou te montre un territoire qui t'appartient et en même temps que tu constates ou que tu prends connaissance de ton territoire, en même temps, tu tu te rends compte que le territoire est occupé. Donc, Canaan était la possession des enfants d'Israël, était leur héritage. Mais bien que Canaan soit leur héritage, le fait que Canaan soit leur héritage n'a pas empêché l'ennemi de se bâtir une forteresse dans leur héritage. Et il y en a plusieurs qui ont dans leur héritage des forteresses, qui ont dans leur santé des forteresses, qui ont dans leur pied des forteresses. Mais j'ai dit, quelle que soit la forteresse que l'ennemi a bâtie dans ce qui t'appartient, avant que 2011 ne sonne, cette forteresse va s'écrouler au nom de Jésus. On amène des paroles convaincantes. J'ai dit, cette forteresse va s'écrouler au nom de Jésus. Oui, parce que vous voyez, l'ennemi a cette stratégie-là de prendre ce qui appartient aux autres. Donc, le peuple avait l'héritage, mais sur l'héritage était bâti forteresse. Vous avez regardé quelque chose de très important. C'est que Jéricho était la première ville, la porte d'accès à l'héritage. S'il ratait Jéricho, il ratait l'héritage. Parce que la terre promise, c'est tout un territoire, mais ça devait commencer par Jéricho. Dès qu'il passe le Jourdain, voilà Jéricho qui est là. Donc, s'ils ont pris Jéricho, ils peuvent continuer leur progression. Et très souvent, cette première bataille pour entrer en possession de son héritage est très importante. Quand on rate cette bataille, c'est bouclé. Et souvent, c'est cette première bataille-là que Satan fortifie. C'est pourquoi la Bible décrit Jéricho comme une forteresse. La Bible dit que la muraille était tellement immense qu'on pouvait faire aligner 6 chars de combat. Et ils allaient rouler sur les murailles. Et les murailles étaient doublées en dedans et en dehors. Et personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Quelle forteresse! Voilà ce que l'ennemi peut faire dans la vie des hommes. Voilà ce que l'ennemi peut faire dans l'héritage des hommes. Et je dis, je ne sais pas quel est l'héritage que Dieu t'a donné, quelle est la promesse que Dieu t'a donnée, et l'ennemi a pris possession de la vie, tu n'entreras point dans ton héritage. Si quelle que soit la forteresse qu'il a bâtie ce matin, je dis, lève la main droite et déclare qu'il est vaincu. Alléluia. Alléluia.
Et la Bible dit donc, alors, il a vu un ange. Et l'ange lui dit, hey, dans celui qui a vu l'ange, et il a cru que c'était un homme, il est. Es-tu avec nous ou contre nous? L'ange dit, je suis pour l'éternel. Et l'ange lui dit, enlève tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu qui est saint. Vous connaissez l'histoire. Ensuite, il enlève ses souliers et l'ange lui donne des instructions. Première instruction que nous avons vue dimanche dernier, l'ange lui dit, vois, je te livre la vie. Et nous avons insisté sur le mot voir. Le mot voir ici, on a dit que c'était très important de voir. Parce que ce qu'un homme n'a pas vu, il ne peut pas procéder. Et j'ai dit, quand on parle de voir, il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle. Frère, même nous qui sommes pasteurs et qui avons peut-être la pratique de la parole au quotidien, parce que nous sommes tout le temps dedans, ce n'est pas évident d'arriver à voir. Parce que voir n'est pas une fonction des yeux, c'est une fonction de l'esprit. Donc ce que Dieu vous demande, c'est de voir avec les yeux de la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est une affaire qui est quotidienne. C'est une affaire qui va te suivre toute l'année 2011. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Et au premier coup, tout à l'heure, j'ai fait un exemple simple. J'ai dit, Pasteur Yéva, par exemple, qui est là, si je lève tout à l'heure, lève-toi rapidement, il a bien quoi? En plan. Ok. Tout le monde ferme les yeux. Madame Monique Koulibaly, elle a bien quoi? Personne ne peut me dire. Pourquoi? Parce que vous avez les yeux fermés. Vous pouvez ouvrir vos yeux maintenant. Pourquoi? Elle a bien éventuellement bleu et jaune. Mais quand tu as les yeux fermés, tu ne vois pas. Mais parce qu'il y avait un aveugle au milieu de nous ici tout à l'heure, il pouvait avoir les yeux ouverts comme ça. Et on allait dire, Madame Amani Koulibaly est habillée en quoi? Il allait dire, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ses yeux sont ouverts, mais ont perdu la capacité de voir. Alléluia. Donc, voir est une fonction importante. Ça veut dire quoi? Maintenant, pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit, le pasteur a bien en quoi? Vous dites blanc. Sans hésiter. Parce que vos yeux ont la capacité de voir.
Donc vos yeux ont fait quoi? On saisit la substance blanche et cette substance blanche a été transmise à votre cœur et vous dites c'est blanc. N'est-ce pas? Maintenant, j'ai dit que tout ce qui vit, vit par la substance qu'elle contient. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans cette salle-là qui n'a pas une substance. Tout ce qui vit, vit par son contenu. Je donne un exemple banal. J'ai dit, bon, si je dis à quelqu'un, envoie-moi de la sucrerie. Il va dans le frigo, il m'envoie une bouteille de coca. Mais imagine-moi s'il m'envoie une bouteille de coca vide. Qu'est-ce que je vais dire? Ça, ce n'est pas de la sucrerie. Ça veut dire quoi? Ce qui fait la sucrerie n'est pas la bouteille, mais le contenu. Même si le contenu est en partie. Si tant qu'il y a le contenu, c'est sucrerie, c'est ce que je veux. Donc, c'est le contenu qui fait une chose. Et voilà pourquoi, quand vous avez vu le pasteur tout à l'heure, il a dit c'est du blanc. Pourquoi? Parce que vos yeux ont saisi l'essence ou la substance du blanc. Et la foi, c'est ça. Foi, ça veut dire saisir la chose avant. Il dit, foi, je vous livre la Bible. Donc, Josué devait voir la victoire avant même de commencer à combattre. On a dit ça, dimanche dernier, c'est de l'appel. Deuxième chose, on a dit quoi? Il dit, je te livre la ville. Quand il dit, je te livre la ville ici, il parle de, je te livre le territoire, qui est physique. Donc, dans votre conquête en 2011, Dieu va vous livrer le territoire. Dieu va vous livrer les richesses. Dieu va vous livrer les choses matérielles et visibles. Parce que tout ce qui est ville, territoire, c'est visible. Tout le monde est visible. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je vous livre ensuite le roi. J'ai insisté pour dire que lorsqu'on parle de roi ici, le roi a à voir avec l'autorité. Sur chaque territoire, il y a une autorité. De même que, en Côte d'Ivoire, il y a une autorité qui donne accès à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? Tu vas en France, tu peux aller en France comme ça, et tu as besoin de visa pour entrer, pour sortir. Et il y a des autorités donc, qui te donnent accès au pays et qui te donnent de pouvoir profiter des bienfaits du pays ou de ne pas en profiter. Donc, pour chaque territoire, il y a une autorité spirituelle. Et il dit, je te donne le roi, ça veut dire quoi? Je te donne la ville, mais je te communique également le pouvoir de posséder le roi, dans le sens où il n'est pas bon de posséder la ville sans le roi. Beaucoup de chrétiens opèrent dans des règles pour posséder la ville sans posséder le roi. C'est faire beaucoup de tapage sans avoir grand-chose sous la main. Ça veut dire quoi? Tu as magasin ici, magasin ici, magasin ici, magasin ici. C'est une bonne chose. Mais à la fin du mois, quand tu te demandes 50 000, tu ne peux pas donner. Tu as la vie, mais tu n'as pas le roi.
Amen.
C'est-à-dire, tu gesticules. Tu fais plein de choses, mais en réalité, travail d'éléphant, ça a l'air de fourmi. Pourquoi? Parce que le roi, tu ne l'as pas encore dompté. C'est le roi qui donne accès aux richesses du territoire.
Amen.
Donc, c'est bon d'avoir la vie. C'est bon d'être dans la ville, c'est bon de pouvoir se pouvoir, mais c'est mieux d'avoir le roi avec soi, de telle sorte que ta parole devient la parole du Dieu Tout-Puissant. Quand tu as déclaré quelque chose, c'est la chose qui arrive. Dis Amen là. Dis Amen très fort.
Amen.
Alléluia. Donc il donne le territoire, mais il leur donne également l'autorité de posséder le territoire. Le territoire ne doit pas te refuser ses biens. Que sert-il à un homme d'avoir une voiture sans une clé? Si on te donne une voiture sans clé, il faut dire au monsieur, prends ta voiture pour partir. Bah, tu as fait quoi une voiture qui n'a pas de clé? Tu ne peux rien faire de ça. Vous comprenez? C'est la même chose. Te donner une ville sans roi. Ensuite, il te dit, troisième niveau, je te donne les quoi? Les soldats de la ville. Ça veut dire quoi? Les soldats sont aux ordres du roi. Ça veut dire que je te donne celui qui contrôle la ville, mais je te donne ses agents dans la ville. Ça veut dire que dans la ville, tous les agents du roi sont sous ton contrôle.
Amen.
Ça veut dire quoi? Tous tes contemporains, tous tes adversaires, tous ceux que tu vas rencontrer dans ton cheminement dans la vie, qui vont vouloir compétir avec toi, tu vas les surpasser tous. Dieu veut dire qu'il te communique un esprit de supériorité, de telle sorte que, possédant le roi, il n'y a aucun agent du roi dans la vie qui puisse te surpasser.
dit à Josué.
Maintenant, quand il a fini de rassurer Josué, il a donné la force à Josué, il va maintenant aller dans les détails.
Maintenant, vous voyez que le texte que nous venons de lire.
Alléluia.
Donnez-moi un peu de volume.
On dit, ils étaient sept, ils avaient sept trompettes, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de répétitions quant à l'organisation et à l'ordre, à la façon dont les choses sont organisées. Tu l'as remarqué pour ceux qui ont bien suivi la lecture. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que la Bible veut nous amener à comprendre un principe important. C'est que les enfants d'Israël n'avaient pas le choix que d'obéir aux instructions données. Parce que quand on lit, on va voir qu'il y a eu beaucoup d'instructions qui ont été données. La façon dont les gens devaient marcher, comment ils devaient être alignés, qui devait précéder qui, ainsi de suite. Donc il y avait de l'ordre. Il y avait des instructions qui ont été données et les enfants d'Israël devaient obéir à ces instructions-là. Qu'est-ce que cela nous révèle? La première leçon qu'on peut tirer en observant la lecture, c'est que le combat ici ne pourrait pas se gagner sans obéissance aux instructions. C'est la première remarque. C'est-à-dire, quand tu remarques le test, tu lis le test, on ne peut pas gagner cette bataille sans obéir aux instructions. Donc, l'obéissance aux instructions est ce qui apporte la victoire. Donc, toi, en tant que chrétien, si tu dois posséder ton Jéricho dans ton territoire, alors tu dois comprendre que Dieu va te donner des instructions. Mais là où il n'y a pas d'obéissance aux instructions, il ne peut pas avoir de victoire. Est-ce qu'on peut dire ça? Amen. Donc tout le monde était à son poste, chacun a accepté de jouer le rôle qu'on lui a donné. Deuxième chose, on a vu également qu'il y avait de la discipline. Parce que quand vous lisez, Josué était très clair sur un fait. Il dit, personne ne doit pendant tout le temps dire un mot, ouvrir la bouche même pour un seul bruit. Ça dit même que je ne vais pas faire. T'as dit, de toute façon, il a fait, c'est interdit. Pas de sourire, pas de son. Personne ne devait émettre un seul son pendant qu'ils sont en train de faire leur procession. Ça veut dire que ça exigeait une discipline. Parce qu'imaginez-vous, quelqu'un a envie de tousser ou bien a envie de se moucher. Il ne peut pas. Parce qu'on a dit, les seules habiletés à faire du bruit, c'était les sept sacrificateurs qui étaient derrière les soldats. C'est eux seuls, pendant le tour, qui devaient sonner la trompette. Tout le monde devait être silencieux. Pas. Non, interdit. Pas. Interdit. Donc, même si ta gorge se gratte. Parce qu'en son temps, sans oublier, tu t'amuses, tu meurs. Tu sais, dans ce moment-là, Dieu donne des situations comme ça. Il y a un chat, tu t'amuses, tu veux tout. Donc, ça nécessitait une discipline de la part du peuple. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que, donc, personne ne devait lever la voix, personne ne devait parler, ne devait même émettre un seul son, sauf les sacrificateurs qui devaient sonner. Maintenant, vous allez voir que, quand on lit, on se rend compte que Dieu ne mentionne rien du tout concernant les soldats. N'oubliez pas que Dieu parle des soldats, il parle des sacrificateurs. Mais ce qui met en évidence, ce n'est pas les soldats, c'est les sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Le fait de mettre en évidence les sacrificateurs nous donne une deuxième leçon, c'est que ce combat-là n'était pas un combat physique, c'était un combat spirituel. Est-ce que les gens me suivent? Tu suis? Ce combat n'était pas un combat physique, mais un combat quoi? Spirituel. Ni bruit, ni rien. On voit juste les sacrificateurs qui sonnent leur trompette. Maintenant, comment ils étaient disposés? Quand on lit, on a d'abord qui? En lit, en première ligne, il y avait qui? Vous n'avez pas vu ce qu'on a vu là? En première ligne du combat, il y avait qui? Il y avait les soldats. Les hommes armés, les soldats, ils étaient devant. Après eux, il y avait qui? Les sacrificateurs, les sept sacrificateurs avec leurs sept trompettes. Après les sacrificateurs, il y avait qui? C'est-à-dire, il y avait encore des sacrificateurs. Ils étaient quatre. C'est eux qui portaient l'arche. Et puis après les sacrificateurs qui portaient l'arche, il y avait encore des soldats. Donc vous voyez que ils ont mis devant. Josué, ils ont mis soldats, sacrificateurs avec trompette, le chauffard. Parce que ce qu'ils avaient, ce n'était pas des trompettes de guerre. Quand vous lisez bien, c'est les chauffards. Parce qu'il y a deux types de trompettes en Israël. Elle est trompette pour aller en guerre, et puis elle est trompette pour le sacerdoce. Et les trompettes qu'ils avaient ici étaient des trompettes pour le sacerdoce. Donc, ils étaient là avec leur chauffard, et puis derrière eux, derrière les sept, il y avait quatre sacrificateurs qui portaient l'arche, et puis derrière les quatre, il y avait encore des soldats. Donc, Dieu a encadré quoi? Les sacrificateurs par des soldats. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Dis amen plus fort.
Amen.
Alléluia. Maintenant, ils devaient faire leur procession. Maintenant, pourquoi Dieu les a encadrés ainsi? Et quand vous voyez dans les descriptions que Dieu, la Bible fait, vous allez voir que la Bible ne fait pas mention concernant les soldats d'armes conventionnelles de guerre. La Bible ne cite pas de fusil, ni d'épée, rien du tout. Les seules armes que la Bible quoi, mentionne, c'est quoi? Ce sont les trompettes et bien sûr l'arche. Donc, cela va nous révéler que le combat ici n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel dans le sens où la Bible ne fait même pas mention d'armes conventionnelles comme des pistolets, des fusils, quoi que ce soit, des épées. Mais la Bible nous mentionne des combats qui ne sont pas conventionnels. Des combats, mais des armes de combat spirituelles. Dites amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Donc les soldats étaient là, mais ils n'avaient pas d'armes. Qu'ils encadraient juste ceux qui devaient faire le vrai combat. Donc Dieu les a cachés dans les soldats. Maintenant, en son temps, si toi tu étais à Jéricho, au-dessus de la muraille, et que tu t'arrivais de regarder à terre, tu allais être surpris pour dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà des gens arrêtés. Il y a des militaires devant. Il y a des sacrificateurs au milieu. On n'entend aucun bruit. On entend et puis tout le monde est comme la forme des momies. Ça, c'est qu'elle a expliqué ce qu'ils font en bas. Et puis ils font le tour de la ville. Tu sais, ça va être des gens qui ont besoin de l'issou. Parce qu'on ne vient pas attaquer une telle forteresse en venant avec des sacrificateurs qui ont des trompettes et puis on est tous soldats. Alléluia, ça n'a aucun sens. Amen. Donc le combat ici n'était pas un combat physique. Troisième leçon que tu peux en tirer, c'est quoi? Il faut bien écouter les leçons que je te donne. Troisième leçon, c'est que en première ligne, le combat se gagne toujours dans l'invisible avant qu'elle ne se gagne dans le physique. Et la stratégie de Jéricho, c'était celle-là. Celle de privilégier l'esprit avant le physique. Voilà pourquoi, dans les descriptions que la Bible a faites, la Bible n'a pas décrit d'armes conventionnelles. La Bible a précisé qu'il y avait les trompettes et il y avait l'arche. Les armes utilisées ici, les armes que la Bible nous cite, sont claires. Alléluia. Numéro 1, c'était quoi? Les trompettes qui symbolisent quoi? Les trompettes ici, où le chauffard symbolise l'adoration, la louange et la proclamation. Donc, les trompettes, louange, adoration, proclamation. Ensuite, quelle est l'autre arme mentionnée ici? L'arche de l'alliance. L'arche ici symbolise quoi? Bien sûr, leur alliance avec Dieu. Et quoi? La présence de Dieu au milieu d'eux, bien sûr, et de son pouvoir avec eux. Donc, on a deux armes que la Bible mentionne dans la stratégie de Jéricho. il y avait l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu et la présence de son pouvoir au milieu d'eux. Et on a les chauffards, les trompettes qui symbolisent la louange, l'adoration et la proclamation. Alléluia. Maintenant, les types de personnages qui composaient le groupe, comme je l'ai dit, il y avait les sacrificateurs et puis les hommes de guerre. Alléluia. Donc, le premier niveau de victoire, et ça, il faut le retenir, il faut le noter, le premier niveau de victoire sortait toujours dans le spirituel avant le naturel. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Maintenant, lis-moi le verset 11. On avance, hein, s'il vous plaît. Le verset 11 dit quoi?
L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit.
Amen. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Ici, on dit l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Maintenant, quand vous lisez bien, on dit l'arche fit le tour. C'est du français. On n'a pas dit les sacrificateurs fit le tour. L'arche fit le tour. Donc, en d'autres termes, c'est un peu comme si ce n'est pas les sacrificateurs qui conduisaient l'arche, mais c'est l'arche qui conduisait les sacrificateurs. Parce que vous avez remarqué qu'ils ont fait le premier jour une fois. Ils sont entrés au camp. Le deuxième jour, ils sont entrés au camp. La seule fois où ils ont fait sept fois le tour, c'était le dernier jour. Donc tout était planifié et chaque chose était à sa place. Et la Bible dit, l'arche fit le tour de la vie. C'est-à-dire quoi? C'est comme s'ils avaient porté l'arche. Et puis, c'est là où l'arche les conduit, ils s'en vont. L'arche fait comme ça. Et puis ils sont là. Si l'âge s'arrête, s'arrête. Mais l'âge passait. Premier jour est fini. L'âge dit maintenant maison. Ils ont suivi. Pour dire quoi? Pour conquérir chose de l'île. Comment conquérir ton Jéricho de l'immense? Parce que l'ennemi qui a bâti cette forteresse dans ta vie, là, frère, pourquoi tu vas aller comme ça? Si tu ne maîtrises pas la stratégie, ça va être compliqué. Pourquoi depuis que tu cries, tu parles, tu pries, tu dis au nom de Jésus, Jésus, il n'y a rien qui se passe. Parce que les choses ne se passent pas comme ça. Sinon, il n'y a pas un chrétien ici qui aurait un souci. Dans la stratégie de guerre, c'est Dieu qui dirige les affaires. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible est en train de nous dire que c'est Dieu qui conduit la bataille. Et quel homme qui doit avoir la victoire. C'est un homme qui doit apprendre à suivre Dieu et non se faire suivre par Dieu.
Amen.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devant et puis Dieu les suit. Si tu es là, on dit j'ai changé. Il fait son business, si Dieu vient dedans. Dieu n'est pas au commencement, mais Dieu vient au milieu. Tout le petit chante pour Dieu, dit Dieu, tu te mets ici. Je dis, tu te mets ici. Il dit ok. Maintenant, quand ça chauffe un côté, il dit Dieu, tu es où? Il dit, mais tu m'as donné une chambre. Je suis dans la chambre et tu m'appelles, tu dis, je suis où? Est-ce que tu veux que je prenne tout? Il dit, non, tu ne prends pas tout, je suis le patron ici. Il dit, ok, si tu veux que j'agisse, donne-moi tout. Il dit, non, prends ta chambre. Alléluia. Donc, là, je les conduisais. Maintenant, allons dans Genèse 1. Dans Genèse 1, il y a un parallèle qui va te permettre de comprendre quelque chose. Genèse 1 dit quoi?
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Oui.
La terre était informe et vide.
Mm-hmm.
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Oui.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. Merci. Ici, c'est le même mot qui sont utilisés avec l'âge. Faisait quoi? On dit?
L'âge fit le tour.
Fit le tour. L'âge se mouvait, quand tu prends la version Martin, l'âge se mouvait autour du camp. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des autres, c'est le même mot. Maintenant, regardez, on dit, il y avait un chaos sur la terre. Il y avait un tohu-bohu à la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des autres. Donc, c'est la même situation, il y avait un problème sur terre qui doit être réglé. Maintenant,
pour que le problème soit réglé,
la Bible nous fait un récit, mais un récit qui est graduel et un récit qui nous révèle une tactique. La Bible dit quoi? Donc, l'esprit d'abord est venu et il a commencé à se mouvoir. Maintenant, continue. Et l'esprit se mouvoir au-dessus des eaux.
Dieu dit.
Non, reprends. Et l'esprit se mouvoir au-dessus des eaux.
Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Mm-hmm.
Dieu dit.
Mm-hmm.
Que la lumière soit. Et la lumière fut.
Amen. Donc, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Dans d'autres traditions, c'est écrit. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et ensuite, Dieu dit. Ça veut dire quoi? Dieu a parlé. Après que l'esprit ait fini son travail, de se mouvoir. C'est une stratégie. Il fallait que l'esprit tourne d'abord, avant que Dieu ne parle. Dieu ne pouvait pas parler avant que l'esprit puisse tourner. Donc, la Bible nous révèle ici à Jéricho, ils ont utilisé cette stratégie-là. Ils ont d'abord pris l'arche, et l'arche a commencé à se mouvoir. L'âge a commencé à se mouvoir. Maintenant, quand je suis allé prendre le dictionnaire pour étudier le mot mouvoir, il y a un certain nombre d'éléments que le mot mouvoir nous donne, par exemple. Numéro 1. Quand on dit quelque chose se mouve, ça veut dire se met au-dessus des eaux. Alléluia. Quelque chose se met au-dessus des eaux. Ça veut dire le mot mouvoir ici a à voir avec. C'est-à-dire position d'autorité, de domination. C'est-à-dire, tu te mets au-dessus du territoire que tu domines. Tu as le contrôle. C'est-à-dire, ça va être contrôlé. Se mouvoir au-dessus de quelque chose, c'est contrôler la chose. Donc, c'est la première indication que ça nous donne le mot mouvoir. Donc, notion d'autorité sûre. Deuxième chose, ce mouvoir, j'ai vu également dans les années qui suivaient, le mot mouvoir, j'ai vu agitation. C'est-à-dire, mouvoir et agitation. C'est-à-dire, c'est comme si, vous voyez, quand un hélicoptère, il se met, il se positionne sur l'eau et puis il commence à bouger. Le fait qu'il commence à bouger sur l'eau fait agiter l'eau. Donc, c'est comme secousse, agitation. Et puis le troisième point dans le mot mouvoir ici, ça a à voir avec. C'est un peu comme. Ça dit couvrir. Se mouvoir, couvrir. Et l'exemple qui peut te permettre de comprendre, c'est comme une poule qui a les œufs. Elle couvre, voilà. Elle va, elle vient, et puis elle prend ses trucs, elle va, elle vient, et puis elle couvre. Donc. Elle couvre. Donc, il y a trois choses. Il y a la notion d'autorité, notion d'agitation et le quoi? Couverture. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Tu me regardes comme ça, comme si tu dis amen. Dis amen. Alléluia.
Amen.
C'est important, hein, ce que je suis en train de te dire. Pour que tu saisisses ce qui s'est passé réellement à Jéricho. Amen.
Amen.
Ils ont fait le tour pendant 6 jours. Tout le monde y est pendant 6 jours. Ils ont fait le tour de la ville pendant 6 jours. Donc ici, lorsque la Bible dit l'arche se mouvait, l'arche faisait ces 3 choses. La première chose, c'est que l'arche, en tournant autour de la ville, Dieu était en train, en fait, de prendre le contrôle de la ville. Dieu prenait le contrôle de l'autorité de la ville. N'oubliez pas que Josué a dit, on vous donne la ville et son roi. Donc, Dieu, pendant les 6 jours, voulait posséder la ville. Maintenant, on n'était plus à la théorie. On nous a dit la théorie. On a vu la chose. Nous passons maintenant aux actes prophétiques. Donc, quand ils ont commencé à tourner, c'était l'autorité qu'ils voulaient posséder. Ils voulaient prendre le contrôle de la ville. Deuxième chose, contrôle de la vie, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? La Bible dit, ils ont tourné, ils sont entrés au camp, ils sont revenus. Ils ont tourné, ils sont entrés au camp, ils sont revenus. Donc, quand l'âge se mouvait, l'âge secouait en même temps les fondements de Jéricho. C'est-à-dire qu'il est en train de se mouvoir, et dans la, quand quelque chose est en train de se mouvoir, il y a même dans la notion d'agitation. Donc, les gens étaient dans la ville tranquille, mais ne savaient pas que les fondements de la ville étaient agités. Les fondements de la ville étaient en train de se parler. Ils ne le savaient pas. Alléluia. Ils ne le savaient pas. Ils étaient tranquilles. Ils regardaient peut-être les gens et ils se moquaient de lui. Mais ce type-là, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Voilà pourquoi, dans la stratégie de Jéricho, il y a la trompette et il y a l'arche. Parce que l'arche symbolise Dieu dans sa gloire, dans son pouvoir. Et tu sais, quand une entité supérieure se meurt au-dessus d'une entité inférieure, l'entité supérieure ébranle l'entité inférieure. Amen. Si vous voulez, un hélicoptère de 4 ou bien un avion de 4 passer ici là 2 minutes, on va sentir ici que tout va s'écrouler comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est plus puissant et plus fort. Amen. Donc, quand une force supérieure rencontre une force inférieure et qu'il se meurt sur la force inférieure, il y a des secousses. Donc, pendant qu'il était en train de bouger, alléluia, il ne savait pas que le fondement de la vie était en train de s'ébranler. Était en train de s'ébranler. Était en train de s'ébranler. Je déclare que le fondement de la vie, dans ta vie, se prend ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, la troisième chose, pendant qu'il était en train de se mouvoir, ils étaient en train de se mouvoir, l'âge tournait. L'âge tournait, l'âge tournait, c'est comme une incubation, c'est comme couver. Je te donne l'exemple de la poule tout à l'heure. C'est comme couver, ils font un jour, ils s'en vont. La poule, elle couve un peu, elle s'en va. Elle couve un peu, elle s'en va. Elle couve un peu, elle s'en va. Quelle est l'incubation où, quand il y a ce genre de truc-là, c'est pourquoi? C'est pour que quelque chose sorte. Donc, pendant qu'ils étaient en train de faire le tour, ils étaient en train d'incuber Jéricho, de couvrir Jéricho, de l'ombre de Dieu, afin que quelque chose se passe. Mais pendant ces sphères-là, tout le monde était tranquille. Les gens ne savaient pas. Alléluia. Parce que le combat était spirituel. Le combat était spirituel. Le combat n'était pas physique. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Le combat était spirituel. Ils ne le savaient pas. Les gens étaient à Jéricho, ils étaient tranquilles, ils étaient en train de faire ce qu'ils avaient à faire. Alléluia. Dieu voulait révéler à Josué un fait important. C'est que la bataille est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et que on ne va pas en bataille, frère. On ne possède pas une ville sans avoir réglé le problème dans les lieux sécurisés. Regarde, c'est cette révélation-là que je voulais donner à Josué. C'est-à-dire, un territoire. Pour posséder un territoire, il y a un travail préalable. Parce que quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, dès qu'ils voient quelque chose, ils commencent à sauter dessus. Au nom de Jésus, je possède, je crois. On ne possède pas un territoire le premier jour à la rue. On ne gagne pas une bataille le premier jour ou le deuxième jour. Toutes les grandes batailles se gagnent d'abord dans le lieu secret, avant que la bataille là ne soit publique. Ce que vous voyez publiquement là, le septième jour, quand ils ont crié là, ça là c'était le show, ils ont fini le travail. Ils sont venus, mais si on demande aux gens, ils vont dire oui, les rues de Jéricho se sont écoulées quand le peuple s'est mis à crier. Mais en fait, ce n'était pas là. Le travail de six jours, si on a mis le travail de six jours, les cris ne vont même pas chasser une mouche. Donc, il y a eu un travail préalable. Vous dites quoi? Vous dites simplement que dans la stratégie de Jéricho, j'ai parlé de 6 plus 1. Ça veut dire quoi? Il y a les 6 jours d'incubation. Les 6 jours où tu dois te mouvoir. Les 6 jours où tu dois passer du temps dans la présence de Dieu pour régler le problème. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de défaites dans la vie des chrétiens. Il y a beaucoup de territoires occupés par l'ennemi. Et l'ennemi refuse de partir parce que les chrétiens n'ont pas compris. Car avant toute bataille, avant toute grande victoire, il y a un travail préalable et un travail secret.
d'abord, il n'aura pas de grâce de toi.
Amen.
Il n'y a pas de victoire sans un travail dans le lieu secret. Tu as eu une idée, pas, tu sortis l'idée. Non, quand Dieu te donne une idée, prends le temps des 6 jours.
Amen.
Le temps de faire ton tour, autour de mouvoir autour de l'idée. De mouvoir autour de l'idée. De mouvoir autour de l'idée. De regarder l'idée, d'analyser l'idée, de prier, de jeûner, de prendre le temps, de scruter l'idée. Quand tu as fini tout ce préalable, quand tu viens maintenant devant le directeur pour exposer, on te donne le contrat en même temps.
Amen.
Tu as besoin d'une victoire dans peut-être une maladie que tu as depuis. Satan a érigé une forteresse dans ta vie. Ou bien, tu dis, je veux me marier et tu n'arrives pas. Je veux faire ça, tu n'arrives pas. Tu veux faire ça, tu n'arrives pas. C'est des forteresses. Mais ces forteresses, ça ne vont pas s'ébranler comme ça. Ta grand-mère a porté la même forteresse. Ta maman a porté la même forteresse. Et tu penses qu'une telle forteresse qui est devenue si fortifiée peut tomber comme ça par Poriama. Viens, 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 viens.
Au nom de Jésus, j'ai la victoire. La pitié. La pitié, mon frère.
Tu vas dire. Tu vas dire, tu vas dire. Et rien n'arrivera. Les choses ne se passent pas comme ça. Il y a un préalable. Il y a un travail souterrain qui se fait. Est-ce que vous savez qu'il y a un travail souterrain? Tu veux posséder un terrain? Tu penses que c'est quand tu vas avoir le terrain pour dire au nom de Jésus, je prends le terrain? Non, non, non. Frère, tu peux voir un terrain et dire ce terrain me plaît. Chaque matin ou chaque soir, tu vas là-bas. Et puis tu fais le tour. Et puis tu s'en vas. Tu reviens, tu t'en fous. Tu fais le tour et tu pars. Quand tu as fini, tu t'en vas. À un moment donné, frère, le monsieur qui a le terrain, ça va brûler dans ses mains. Alléluia. Je suis venu vous appeler à comprendre la stratégie de Jéricho. C'était une stratégie de 6 plus 1. 6 jours où ils ont pris le temps de se mouvoir. Le temps de prendre le contrôle sur le plan spirituel d'abord. Le temps d'ébranler les fondements de la ville d'abord. Mais tout ça se faisait sur le plan spirituel. Avant que le cri là n'ait un impact. Le travail de 6 jours avait réglé tout le problème. Et 2011 qui vient, si tu veux avoir des victoires importantes qui vont même te dépasser, que cette stratégie-là soit ta stratégie.
Amen.
Ne te précipite pas pour organiser des choses, pour faire quoi que ce soit, parce que quelqu'un a dit, j'oublie, je l'ai dit que Dieu a prophétisé pour dire la ville vous appartient. Frère, une prophétie, c'est une prophétie. Mais une prophétie ne veut rien dire. Parce que si tu ne poses pas les actes correspondants, la prophétie ne s'accomplira pas, même si Dieu a dit.
Amen.
Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Dieu a dit, je fais. Et le monsieur allait s'asseoir. Dieu a fait. Dieu a fait. Dieu a fait. Frère, rien n'arrivera. Regarde un Josué comme ça. Dieu dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Un tel homme, il a rencontré l'ange. L'ange lui a dit, je te donnerai la ville. Je te donnerai le roi de la ville. Alléluia. Mais malgré tout, Josué a écouté Dieu et a respecté à la lettre les instructions qui ont été données, frère, pour qu'il puisse avoir la victoire.
Amen.
Imaginez-vous si Josué n'avait pas respecté les instructions et que les gens parlaient pendant que les trompettes sonnaient, ça me parlait. Hey, tout le monde mangeait, moi j'ai fait. Il n'y a pas de discipline dans le groupe. Il n'y a pas de discipline dans le groupe. Il y avait de la discipline. Il fallait respecter les principes. Pourquoi? Parce que frère, ce que Dieu s'apprêtait à faire. C'est pourquoi les gens ne respectent pas les lois et les principes? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Quand on croit que Dieu fait ce qu'il te dit de faire, tu fais. Mais quand tu ne fais pas, c'est parce que tu ne crois pas que ce qu'il dit va faire. C'est tout.
Donc quand tu as prophétisé, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2011? Est-ce que Dieu t'a donné une grande vision? Je te dis, la vie, là, quand on parle de destinée, là, j'ai toujours dit ici, la destinée, c'est deux choses. La destinée, c'est pas quelque chose. La destinée, c'est quoi? J'ai dit quoi? Qui peut se rappeler ce que j'ai dit? Hein? Personne? Et puis quoi? J'ai dit tes choix et ta détermination à servir et à honorer ton Dieu. Voilà les deux choses qui font la destinée. Tu t'amuses à dire oui, Dieu a dit, je vais être grand. Il y a des gens que Dieu veut qu'ils soient grands, mais qui ne seront jamais grands. Mais oui! Tu sais pourquoi on va se séduire? Il y a des gens qui doivent être grands, qui doivent contrôler. Il y a des gens, le niveau qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas leur niveau. Ce n'est même pas leur niveau, ils doivent être plus que ça. Mais ça n'empêche pas Dieu de te regarder là, parce que tu n'as pas fait ce que tu as fait. Josué a compris que l'affaire là n'était pas une affaire simple. Jéricho était fortifié. Est-ce que le problème que tu as là t'inquiète? Si ça t'inquiète, tu vas écouter Dieu. Parce que ce n'est pas en bavardant que ça va se régler. Non, ce n'est pas en courant de gauche à droite, en disant que tu vois un prophète ici, prophète, touche ma tête. Prophète, touche ma tête. On t'a tellement imposé les mêmes que tu es chaud. C'est pas ça qui va régler ton problème. Ton problème, je dis, c'est Dieu. On dit, l'arche se mouvait. Ce n'est pas les sacrificateurs qui déplaçaient l'arche, c'est l'arche qui est déplacée. Ça, c'est Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, ça marche. C'est important. L'Église doit revenir à Dieu et aux instructions du Seigneur si elle veut voir le miracle de la Bible. Qu'est-ce qu'on peut dire avec nous autres? Tu sais qu'il y a un pasteur qui a servi Dieu pendant 11 ans. Il a fait des grandes choses, des grandes campagnes d'évangélisation. Et puis un jour, Dieu est venu la nuit. Dieu dit, hey, ça va? Il dit, oui, c'est ton serviteur. Dieu dit, tu sais que pendant les 11 ans là, tu t'es servi, tu ne m'as pas servi. Il dit, quoi? 11 ans? C'est la haine. Moi, je ne t'ai pas servi. Dieu dit, non, tout ce que tu as fait, c'est pour toi seul. 11 ans, tu dois recommencer à zéro. C'est pas Dieu. Au dernier jour, ça va chauffer ici. Ça va. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, Seigneur, dis-moi. Seigneur, dis-moi. Tu appelles qui? Dis-toi. Je ne te connais pas. Je sais pas. Frère, c'est pourquoi vous devez faire très attention à la façon dont vous servez Dieu. Faites très attention à la façon dont vous servez Dieu. Dieu se servit de vous et non le contraire. Josué avait compris. 6 plus 1. Sonnez la trompette. Et maintenant, il dit au dernier tour, faut lire ça pour moi. Il dit maintenant, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Et à la 7e fois, vous allez faire quoi?
À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville.
Il dit poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Tout le monde dit amen. Dis, l'Éternel m'a livré la vie. Merci. Regardez ici. Pour que le peuple ait la percée et puisse prendre la vie, première chose, si tu veux avoir la percée en 2011, posséder le territoire qui t'appartient, que l'ennemi a pris, s'installer là-bas. Pourtant, ce n'est pas chez lui. Ça te dit, j'ai le 6 plus 1. Apprends d'abord à comprendre que le succès vient par l'obéissance aux instructions. La victoire se gagne d'abord dans le niveau spirituel avant dans le niveau physique. 2. Trois, les grandes batailles ou les grands succès se préparent avant de faire le bruit. Le bruit là, c'est pour célébrer. Mais on ne fait pas de bruit avant. Mais on prépare dans le secret. Ça veut dire quoi? Tu dois aller prendre un contrat quelque part. Il faut que tu aies travaillé le monsieur d'abord. Dans ta chambre. Tu as son nom. Tu sais comment il s'appelle. Tous les gens qui sont là-bas. Parce que quand tu veux entrer dans une société, il y a des forteresses. Par exemple, tu veux faire du poisson. Au port ici, là, les Burkinabés ont bâti Jéricho. Trois fois le mur, là, ils ont bâti sur le port. Spirituellement, ils ont verrouillé le commerce du port, les Aous ont verrouillé le commerce du bois, de telle sorte que si quelqu'un doit entrer dans ce commerce-là, sa bataille n'est pas une bataille de le ministre a donné autorisation pour aller faire poisson. J'ai autorisation d'aller faire poisson. Tu vas entrer, ils vont te détruire. Parce qu'il y a Jésus, mes frères, c'est sérieux. Combien d'Ivoiriens qui ne sont pas entrés, qui ne sont pas sortis, avant qu'ils sont morts là-bas. Ils ont tous les papiers. Ils ont tout ce qu'il faut. L'argent du Spahan nous approche, je ne sais pas d'où ça va. Il y a un Jéricho, frère. Pour entrer là, tu dois avoir ton papier, avoir toutes les autorisations, ça là c'est naturel. Mais tu dois comprendre que le premier niveau de victoire est d'abord dans les six jours.
Amen.
Tu dois faire le tour. Tu fais le tout, ils ne savent pas ce que tu fais. Ils ne savent pas que tu portes l'alliance, tu portes la présence de Dieu. Alléluia. Quand les sacrificateurs portaient l'arche et la présence de Dieu en toi va faire le travail. Frère, le Saint-Esprit avec toi va commencer à prendre l'autorité sur le port d'Abidjan. Va commencer à prendre l'autorité. Quand il va te dire, maintenant passe à une autre vitesse. Et il va te commencer à secouer les fondements. C'est terrible, hein? Et maintenant, après, il te dit, fonce, crie. Crie là, ça veut dire quoi? Maintenant, tu fais ton bruit, dépose ton papier et dis, je suis là.
Amen.
Mais le temps, ils vont s'organiser. Tout est mélangé.
Amen.
Acclame, Seigneur. Alléluia. Le temps qu'ils vont plus bien. J'ai déjà tout pris. Tout est mélangé en bas de ne plus s'organiser. Pourquoi? Pendant les six jours, tu as fait un travail de fond.